on a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
C'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiat.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines, c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire? Comment transmettre nos cultures à nos enfants? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts? Comment lutter contre les stéréotypes? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti ! Est-ce que vous connaissez la citation de Jules Renard ? Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Moi, je suis pareil. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les livres. Pour moi, une bibliothèque ou une librairie, c'est vraiment le paradis. La littérature m'a littéralement sauvée. De la timidité, de l'ennui, parfois de l'ignorance, puisque j'y ai appris beaucoup de choses. C'était à la fois l'apprentissage, l'évasion et des voyages dans des endroits soit imaginaires, soit auxquels je n'avais pas accès. Mais malgré cet amour des livres, je me rends compte qu'il y avait un gros problème que j'ai réalisé à l'âge adulte. Aucun personnage de ces livres que je lisais ne me ressemblait. Aucune histoire ne racontait mon univers franco-asiatique. En tout cas, si ces histoires existaient, elles n'arrivaient pas jusqu'à moi. J'ai bien quelques souvenirs de personnages asiatiques, par exemple Chen, la fillette chinoise, qui avait des yeux tout le temps fermés et qui roulait les R dans les albums de Cédric. Il y avait aussi Mulan, l'héroïne de dessin animé de Disney, et plus tard Cho Chang dans Harry Potter. Alors Chen, je m'identifiais pas du tout à elle. Pour tout dire, je ne l'aimais pas du tout même. Contrairement à elle, mes yeux étaient bien ouverts, je parlais bien français. Cho Chang, pareil. Mulan, je l'aimais déjà un peu plus. Avec son côté badass, ça ne me dérangeait pas qu'on me compare à elle. D'ailleurs, à l'école, on m'avait même donné ce surnom. Mélan, Mulan, ça se ressemble. Et j'imagine que certaines en trouvent aussi. Par contre, Mulan venait de Chine, elle vivait en Chine, et dans une époque lointaine, donc rien à voir avec moi, mon quotidien d'écolière de primaire, dans un village bien français, avec une culture chinoise et vietnamienne à la maison. Ce quotidien-là, que je vivais, je ne l'ai jamais vu nulle part dans les livres pour enfants que je lisais. Donc vous l'avez compris, le sujet que j'aborde ici aujourd'hui, c'est la représentation dans la littérature. L'importance de cette représentation à la fois pour les personnes asiatiques qui ne sont pas représentées ou pas bien représentées et qui ne peuvent donc pas s'identifier exactement. Mais aussi pour les autres qui ne découvrent pas l'altérité de la diversité, de nos apparences, des cultures. Ça ne favorise pas la compréhension mutuelle et ça incite à développer des clichés. Moi, le jour où je me suis identifiée à quelqu'un, à son histoire, ça a littéralement changé ma vie. Et j'exagère pas. C'était un jour de février 2018, je m'en souviens comme hier. J'étais dans le métro, j'écoutais un podcast, un épisode de La Poudre, et j'ai entendu Grace Lee, que vous connaissez sûrement aujourd'hui comme l'activiste qui milite contre le racisme anti-asiatique, comme la podcasteuse de Kif Taras avec Rokhaya Diallo. À l'époque, elle avait réalisé la web-série Ça reste entre nous, qui met en avant des personnalités franco-asiatiques, et elle tenait un blog sur la gastronomie asiatique, La Petite Banane. Moi, je venais de quitter la profession d'avocate pour me lancer dans le podcast. Et quand j'ai entendu Grace dire qu'après avoir fait des études de droit, elle avait finalement choisi une voie créative, ça m'a vraiment fait un choc. J'avais déjà entendu plein de gens parler de reconversion, c'était pas révolutionnaire en soi. Mais je n'avais jamais côtoyé, jamais entendu parler de toute ma vie d'une personne asiatique dont le parcours ressemblait au mien et qui avait choisi ce type de carrière artistique. Vraiment, j'ai eu envie de pleurer. J'étais dans le métro et j'avais des larmes aux yeux et je comprenais même pas pourquoi j'avais cette réaction. J'ai réalisé en fait que ça m'avait manqué, ce type d'identification. Quelques mois plus tard, je me suis lancée de manière professionnelle dans le podcast. Donc c'est peu dire que la représentation est importante, que ce soit en tant qu'adulte, mais encore plus quand on a enfant, je pense. C'est un âge où on se forge un imaginaire, une image du monde et des rêves pour l'avenir. Donc petit aparté, j'aimerais en profiter pour remercier Grace qui a contribué à un changement de trajectoire important dans ma vie et qui continue depuis des années à ouvrir la voie et inspirer des centaines, peut-être des milliers de personnes avec son travail. Récemment, Grace a publié un livre pour enfants illustré par Melody Hung, qui est illustratrice et que vous connaissez peut-être pour son travail sur le podcast Banh Mi, ou encore ses illustrations du livre Vietnam Gourmand, écrit par Nathalie Nguyen. J'ai la chance de côtoyer Grace et Melody depuis plusieurs années maintenant, et c'est un plaisir, une fierté, de les recevoir aujourd'hui sur Asiatitude. Je vous partage aujourd'hui ma conversation avec elles autour de leur premier livre pour enfants, Est-ce que tu as faim ? C'est l'histoire d'Anaï et sa grand-mère, l'histoire d'une écolière entre deux cultures, la française et la chinoise, une histoire que j'aurais aimé lire enfant, symbolique, autour d'un langage universel, la nourriture. C'est donc à mettre entre toutes les petites mains.
C'est une nouvelle histoire. Ça s'appelle « Est-ce que tu as faim ?»
Anaï aime le mercredi. Anaï, c'est elle. On dit que c'est le jour des enfants. Pour Anaï, c'est le jour de mamie, de grand-mère. Anaï songe à la cuisine de grand-mère. Car aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est son anniversaire.
À elle ?
Alors, je crois que c'est l'anniversaire d'Anaï, oui. Elle a 6 ans. C'est un chiffre porte-bonheur, selon grand-mère. Car sa grand-mère, elle arrive là, non ? Mmh. Avec son vélo. Et là, qu'est-ce que c'est ?
Des plats.
Des plats ? Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce livre aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation dans Asiatitude.
Merci Mélanie.
Pourquoi l'une et l'autre vous avez voulu vous lancer dans ce projet de livre jeunesse ?
Moi je pense que j'ai toujours voulu écrire un livre pour les enfants parce que je trouve que c'est un support où l'imagination est sollicitée. J'avais toujours eu envie de le faire et j'avais pas vraiment eu l'occasion. Et j'ai rencontré les éditrices de ce livre. Elles s'appellent Elsa et Caroline. Elles travaillent dans une association qui s'appelle On ne compte pas pour du beurre, qui édite donc Est-ce que tu as faim ? Elles m'ont dit est-ce que tu veux faire un livre pour enfants ? Et j'aurais dit bah oui, super, j'ai trop envie. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je connaissais Mélody à travers son travail. Je me suis dit est-ce qu'elle aimerait bien le faire avec moi ? Parce que je trouvais que c'était. Enfin, j'avais envie de parler de nourriture et je savais que Mélody dessine très bien la nourriture. Donc, ça, c'était un critère essentiel dans ce livre. Et donc, c'est comme ça. Et Mélodie a accepté. Donc, je suis très, très contente.
Merci, Grace, de me l'avoir proposé. Et en fait, c'est un titre qui me parlait beaucoup. Parce que c'est vrai que quand tu as commencé ce projet, il avait déjà ce titre « Est-ce que tu as faim ?» Et moi, c'est un sujet qui m'a tout de suite parlé. Et je voulais vraiment l'illustrer et lui donner vie. Aussi, c'était un rêve pour moi d'illustrer un livre pour enfants.
Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait plus qu'autre chose dans ce projet, comme tu fais beaucoup de projets, pour décider de consacrer du temps pour ce projet-là en particulier ?
La représentation est très importante pour moi. Je pense que, ayant grandi en France avec un héritage culturel asiatique, c'est une question qui me traverse dans mon travail. Vraiment, je planche beaucoup sur cette question de qui nous sommes, en fait, et qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que notre place, comment se la faire, comment est-ce qu'on la garde, comment est-ce qu'on en change, et qu'est-ce qu'on nous a transmis, qu'est-ce qu'on transmet. Voilà, toutes ces questions-là, c'est hyper important pour moi. Mais je pense que mon envie d'écrire un livre pour enfants, ça part d'abord d'une envie de raconter une histoire. Je pense que c'est le plaisir de raconter une histoire qui m'est chère et qui a un sens pour moi. C'est pas parce que la représentation est importante pour moi, que je vais écrire un livre pour enfants, c'est vraiment deux choses qui sont sur un chemin parallèle. Il y a plein de manières de travailler ces représentations, chacun le fait à sa manière. C'était ma manière à moi de mettre une pierre à l'édifice, de dire voilà, j'ai envie de raconter une histoire pour mes enfants, mais aussi pour nos enfants d'une manière générale.
Quelle histoire tu voulais raconter ?
Je voulais raconter une histoire sur le langage de l'amour. Et ce titre, Est-ce que tu as faim ? Il représente pour moi le langage de l'amour parce qu'il y a des familles dans lesquelles les émotions ne s'expriment pas par la parole. Et ça a diverses raisons. Ça peut être une forme de barrière de la langue parce qu'on ne parle pas la même langue. Il y a une multiplicité de langues dans une famille, c'est très fréquent. où il y a aussi peut-être une distance de vécu, une distance générationnelle. Dans ces familles-là, l'amour s'exprime autrement. Et je sais que la nourriture, hein, c'est un langage de l'amour. C'est-à-dire qu'on fait à manger, c'est fait avec amour. Enfin, c'est vraiment le cas de le dire. Et ce qu'on aime, c'est partager avec les siens, des gens qu'on apprécie, des gens qu'on les voit tous les jours ou qu'on les voit rarement. C'est un moyen d'exprimer le soin qu'on a pour les autres. Et donc, je voulais raconter cette histoire-là parce que c'est mon histoire, mais je sais que c'est aussi l'histoire de plein de gens, asiatiques ou pas asiatiques. Je pense que, évidemment, que, en tant que personne avec des origines asiatiques, je sais que ça a été pour moi une porte d'entrée vers la culture de ma famille et ça a toujours été ma grand-mère, en fait, me disait jamais je t'aime, puisque c'était pas dans son vocabulaire, c'était juste simplement la pudeur l'empêchait de dire ces mots. Ça n'existait pas, en fait, pour elle, ce mot-là, que ce soit pour son conjoint, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. C'est juste pas des mots qu'elle prononçait, qu'elle les lisait peut-être ailleurs, mais elle ne les disait pas. Mais par contre, elle nous demandait toujours, la première chose qu'elle demandait, c'était « Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as mangé ?» Et c'est cette manière, c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans ce livre.
Mélodie, donc tu as pris le projet en vol. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet-là et comment tu l'as abordé?
Ce qui m'a plu dans ce projet, bon, déjà, ça parle de nourriture. C'est vrai que j'avais du coup cette expérience du dessin de la nourriture. Ce qui m'a parlé, oui, c'est vraiment le titre et c'est vraiment le sujet, l'histoire. Et je pense que c'est par rapport aussi à ma culture, à ma relation avec ma famille. C'est vrai que dans ma famille, voilà, on n'est pas forcément très expressif verbalement et ça s'exprime particulièrement à travers la nourriture. C'est comme ça que, en tout cas, dans ma famille, on exprime notre affection. Et c'est un livre que j'aurais voulu avoir en grandissant, je pense. Parce que moi, j'ai toujours aimé lire et j'allais beaucoup à la bibliothèque. C'était une de mes sorties préférées de la semaine. Ma mère, elle m'amenait à la bibliothèque pour choisir des livres. C'est vrai que dès qu'il y avait un personnage asiatique, ça attirait mon attention. Ça m'incitait à ouvrir le livre, à le lire. Et j'étais un peu frustrée du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages asiatiques.
Comment ça s'est passé?
Alors, un livre illustré, c'est un ouvrage collectif. Donc, on est toutes les deux. Et il y a aussi les éditrices qui ont travaillé avec nous sur le procédé, depuis l'idée jusqu'à le fait d'avoir un objet entre les mains. J'ai d'abord écrit le texte. Et ensuite, Mélodie a illustré. Et ensuite, j'ai adapté le texte en fonction de ce qu'avait fait Mélodie. Je pense qu'on peut le dire que c'est un peu comme ça.
C'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu tout le texte de Grâce, avec aussi ses indications au niveau des visuels. Et moi, c'était important d'avoir une vue d'ensemble pour ce type de projet. Je commence avec le storyboard. Et dans le storyboard, donc, ça me permet de définir la composition de l'image. Et je varie beaucoup la composition, donc l'angle du dessin. Et en fait, le fait d'avoir toute l'histoire, ça me permet de bien préparer les différents angles, les différentes compositions des planches. Et j'ai aussi fait, dans un premier temps, le design des personnages. Donc pour Anaïs, c'était assez rapide parce que j'avais pas mal de références aussi de Grâce. Elle m'avait fait un storyboard avec tous les personnages. Et donc Anaïs, donc, ça s'est passé assez rapidement parce que j'avais une idée très précise déjà du personnage.
Pour présenter aux lecteurs et aux lectrices qui ne l'ont pas encore lu, l'histoire donc, suit Anaïs qui est une petite fille qui habite en France, qui est d'origine asiatique. Et sa grand-mère parle chinois, on a des caractères chinois dans le texte. Il y a cette petite fille qui est l'héroïne du livre, et sa grand-mère qu'on voit avec des personnages aussi secondaires qui sont les enfants de son école, voilà, pour montrer en fait qu'on est bien dans cet univers mixte. Voilà, tu peux reprendre, juste pour resituer l'histoire.
Oui, pour Anaïs, pour moi j'ai grandi avec des personnages qui avaient beaucoup de clichés au niveau de la représentation du dessin. Bon, c'est une coupe généralement carrée avec les cheveux assez plats, les yeux généralement c'est juste un trait unique, surtout dans la bande dessinée ou dans les livres illustrés, donc comment ne pas tomber là-dedans. Je voulais lui faire des cheveux qui étaient un peu emmêlés, parce que nous finalement même si on a les cheveux raides, bah, ils s'en mêlent parfois. Et je voulais que ça soit une petite fille qui soit pleine d'énergie, qui soit curieuse, qui bouge beaucoup, et en plus elle va sur le vélo de sa grand-mère. Donc elle a les cheveux qui partent un peu dans tous les sens et c'est normal. Donc je voulais représenter ça. Et aussi au niveau de ses yeux, bah, ça, c'est pas juste un trait. Donc voilà, y a quand même, on voit quand même le blanc des yeux.
Le cadre qui a été choisi pour cette histoire et à travers les illustrations, je pense que ça doit pas être évident de pas tomber dans les écueils du cliché, du stéréotype. Et vous avez justement cette envie de montrer quelque chose qui soit pas dans ces clichés. Donc tu parles des yeux, des cheveux, pour qu'ils soient pas des baguettes. Elle a les cheveux un peu, enfin pas ondulés, mais on voit qu'ils sont un peu en relief.
Oui, je trouvais ça mignon. Et aussi, dans ma famille, ma mère, elle a les cheveux un peu qui gonflent. Avant, elle faisait des permanentes, mais naturellement, elle a les cheveux un peu ondulés. Donc, ça existe. Et je voulais le représenter. Et aussi pour la création des personnages, donc pour la grand-mère, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait eu différentes versions. C'est vrai que quand je l'ai dessinée au départ, on se posait la question avec ou sans permanente. Finalement, pour nous, c'était important quelle est une permanente.
C'est vrai que la permanente, c'est quand même un truc assez traditionnel. Voilà.
Donc, toutes nos grand-mères, nos mères... ma mère et ma grand-mère avaient une permanente, en tout cas, donc c'était important pour moi de le représenter aussi.
Il y a eu des réflexions sur l'identité, finalement, visuelle, pour ne pas tomber dans des écueils. Comment, Grâce, tu as imaginé l'histoire qui partait donc, de cette histoire d'amour et de transmission d'amour, sans non plus trop de clichés?
C'est vrai que j'avais le thème qui était celui du langage de l'amour, et j'avais ce titre que je voulais absolument, « Est-ce que tu as faim ?» Et ensuite, je me suis dit, quelle est la tranche de vie d'un enfant avec cette grand-mère qui pourrait mieux incarner ce moment. Et voilà, en fait, je pense que c'est ça dans l'écriture et dans la question de d'écrire un moment qui va être représentatif de ce que tu veux dire. Je trouve que un moment de célébration comme l'anniversaire, c'est un moment qui va, tu sais, ça va mobiliser beaucoup d'énergie, on est content, il y a beaucoup d'excitation, il y a de l'attente de la part de l'enfant et de la part de l'adulte. Il y a aussi énormément de préparation, le fait de préparer quelque chose pour quelqu'un, c'est aussi beaucoup d'amour. Et voilà, donc j'ai choisi ce moment parce que voilà, c'est vraiment la fenêtre vers cet univers fait de bons petits plats et de relations qui se traduit par cette nourriture et cette transmission. Je pense que c'était le bon moment à choper pour l'histoire.
Je trouve que c'est intéressant le choix de l'anniversaire. Je me suis dit, tiens, elle n'a pas pris le nouvel an lunaire, elle n'a pas pris quelque chose de typique, en fait, asiatique, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais en tête, mais pour mettre en avant aussi le côté double culturel, parce que des enfants de l'école d'Anaï vont dire « Est-ce que tu vas avoir un gâteau au chocolat ?» Et en face, en fait, Mélodie a dessiné des nouilles. Enfin, il y a des nouilles sur la table, il n'y a pas un gâteau au chocolat. Et ça montre bien cette double culture à travers juste le choix de cet événement-là de l'anniversaire, alors que si tu avais choisi un nouvel an lunaire, eh ben, ça aurait été plus normal, finalement, d'avoir que des plats asiatiques, puisque ce n'était pas un jour où on aurait eu un gâteau au chocolat. Je trouve que c'était très intéressant comme choix. Comment vous avez fait pour faire le choix des plats à illustrer, de ce qu'il y avait à mettre sur la table finalement?
Oui, alors pour les plats d'anniversaire, moi j'ai choisi des plats que moi je mange dans ma famille pour les anniversaires. Moi, on m'a toujours dit on mange des nouilles pour l'anniversaire parce que c'est la longue vie, parce que la nouille c'est le symbole de la longévité, donc faut pas couper les nouilles au ciseau, jamais, au grand jamais couper les nouilles. Voilà, donc...
Blasphème.
Blasphème, exactement. Et il y a aussi des œufs sur la table, parce que l'œuf, c'est par essence aussi le symbole de la naissance. Le fait de manger des œufs à l'anniversaire, d'ailleurs, il y en a dans ma famille, mais c'est pas non plus quelque chose de... faut juste avoir un œuf, quelle que soit la cuisson, la manière de le cuisiner. L'œuf, c'est aussi comme ça qu'on fête les 100 jours du nouveau-né, enfin les 100 jours, ou des fois les 40 jours, ça dépend dans les familles ce que vous fêtez, mais dans ma famille, on fêtait le premier mois et on faisait des œufs rouges teintés. Et ça aussi, pour moi, l'œuf, c'est très important quand on a des enfants. Et il y a aussi des pêches, parce que les fruits, d'une manière générale, mais surtout la pêche, c'est des symboles de bonne santé, et le fait que ce soit des fruits gorgés de vie, juteux, l'abondance, tout, c'est vraiment des symboles très importants dans la cuisine chinoise.
Et Mélodie, comment tu as travaillé pour les représenter, pour qu'ils soient réalistes par rapport aux plats traditionnels?
Alors pour les dessins de nourriture, je regarde beaucoup, beaucoup de photos.
Ah bon, tu ne le cuisines pas toi-même?
Non, je ne cuisine pas moi-même, on m'a beaucoup posé cette question.
C'est vrai?
Mais non, j'ai Google. Mais oui, je regarde beaucoup de photos, ce qui me donne très faim quand je dessine. Mais bon, après l'habitude. Mais oui, je regarde beaucoup de références pour les rendre les plus appétissants possible.
Et à la fin du livre, il y a une recette justement de plat. Pourquoi avoir choisi de mettre une recette?
Moi, j'étais pas forcément pour, mais je suis très contente qu'elle soit là. Non, mais au début, j'ai dit, mais c'est un livre pour enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que c'est un livre de cuisine? Est-ce que c'est un livre pour enfants? Bon, c'est pas grave. Mais Voilà, c'est peut-être pour inciter à cuisiner aussi, et puis c'est le petit cadeau à la fin, on donne une petite recette. Et je dois dire que j'ai testé la recette plusieurs fois, hein. C'est une recette qu'on m'a transmise et que j'ai retestée, donc normalement elle marche. Oui, je ne l'ai pas trouvée dans une fiche, fiche L.
C'était une bonne idée finalement. Alors, le soir on lit le livre et le lendemain matin on fait la cuisine.
On a le ventre qui gargouille toute la nuit.
Bah ouais. Par contre ça c'est le problème. Quel est votre souhait pour ce livre, maintenant qu'il n'est plus entre vos mains ?
Je souhaite que le public soit le plus large possible et que ce soit un partage, en fait, comme la cuisine dont on parle. C'est que finalement, le livre, il appartient aux personnes qui l'ont entre les mains et qui le lisent et qui vont avoir leur propre histoire de nourriture, de langage de l'amour. Et c'est, en fait, c'est ça qui est riche. C'est le fait de savoir qu'il y a plein de gens qui pourraient potentiellement avoir cette même histoire que nous, alors qu'on n'est pas du même endroit. J'ai parlé à plein de gens qui n'étaient pas asiatiques et qui m'ont dit que eux aussi, dans leur famille, c'était comme ça qu'on faisait. Je me suis dit, ah ouais, c'est génial. En fait, c'est une histoire qui dépasse les frontières. Et bien sûr, donc oui, mais déjà qu'il existe, enfin, c'est déjà beaucoup, parce que là, c'est un long travail pour arriver à l'avoir entre nos mains. Et tu vois, de savoir que toi, tu l'as lu avec ton fils dans sa petite chambre, bah, moi, ça me comble. Je suis tellement contente. Je trouve que c'est un cadeau énorme que tu nous fais et que les gens pourraient nous faire en nous invitant chez eux dans cet endroit qui est le temple de l'amour familial, le petit lit, les petits pyjamas et tout. Moi, je trouve ça génial. Ça me... Oh, j'adore.
Moi, pour les petits lecteurs du livre, bah, j'aimerais bien déjà qu'ils partagent l'expérience que vit Anaï à travers le livre. Et bah, c'est son anniversaire, donc elle vit de chouettes choses dans l'histoire. Et j'aimerais que pour les petits lecteurs asiatiques, bah, qu'ils se disent que même si leurs parents ou les membres de leur famille n'expriment pas leur amour verbalement, bah, qu'ils se disent pas, bah, ils m'aiment moins qu'une personne dont les parents le disent. Et qui comprennent qu'il y a d'autres langages de l'amour. Et pour les enfants, peut-être non asiatiques, que ça ouvre le dialogue, parce que je pense qu'un enfant, naturellement, il est curieux. Donc peut-être qu'ils ont des amis asiatiques, et du coup, ça permet d'ouvrir le dialogue et qu'ils s'intéressent, du coup, à d'autres cultures.
Oui, donc un livre universel, à la fois qui va parler aux enfants asiatiques, aux parents asiatiques, aux personnes non asiatiques. C'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu à mon fils. Il va pouvoir se dire que c'est normal, en fait, d'avoir ça sur la table, parce qu'il le voit dans des livres et que c'est tout à fait normal d'avoir des nouilles, d'avoir une enveloppe rouge. Quand je lui montrais l'enveloppe rouge, lui aussi, il en avait une, en fait, qu'on lui avait donnée l'année dernière et qu'il l'avait dans son tiroir. Donc il s'est retrouvé dans « Ah, c'est quoi sa boîte à trésors ?» Parce que moi, j'ai pas une boîte à trésors, mais je l'ai mis dans mon tiroir. Donc c'est il s'est retrouvé et j'ai trouvé ça génial parce que bah, il se retrouve pas dans d'autres livres. Dernière question, est-ce que ce livre, c'est un projet unique ou est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres projets de livres jeunesse par la suite ? Parce qu'on a très envie d'avoir plein de livres.
Pour l'instant, c'est un projet. C'est un projet. Mais moi, je pense que c'est aussi la réception et le succès que peut avoir le livre qui va déterminer la suite. Évidemment, je pense que le soutien du public est hyper important parce que c'est pas parce que le livre est sorti qu'il va forcément faire son chemin. Il faut aussi continuer à en parler et à le promouvoir auprès des acteurs et des actrices du livre parce que les éditeurs et les éditrices, ils regardent les chiffres, en fait, quoi. Si ces chiffres sont bons, eh bien, ils se diront « Ah, il y a un public pour ça ». Donc, la valeur de ce livre, elle est correcte puisque génère le livre va déterminer ça. Et je pense que cette solidarité que je connais, hein, qui déjà existe, voilà, je pense qu'elle est importante parce que c'est comme ça qu'on dit « Regardez, ça, c'est important pour nous et on en veut d'autres ». Enfin, d'autres, que ce soit nous ou ce soit pas nous, enfin je veux dire vivement qu'il y en ait plein et qu'on ait l'embarras du choix et qu'on se dise ah ouais ça là pour le coup, c'est vraiment riche.
Est-ce que vous avez d'autres livres à conseiller pour enfants qui seraient intéressants dans la représentation jeunesse?
Moi, je conseille toujours le livre de Lorraine Safou, qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs », qui est un livre qui parle d'une héroïne, d'une petite fille noire. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ses cheveux, de l'amour qu'elle peut avoir pour elle-même, le soin qu'elle prend pour elle. Et donc, ce livre, je le conseille tout le temps et j'achète souvent, et je l'offre. Et s'agissant des livres pour enfants avec des personnages asiatiques, j'en ai plein chez moi qui sont souvent des livres américains qui sont traduits. Et donc, Charline de Mon fils en rose en parle très bien. Et le travail qu'elle fait chez Diveka, dans l'association pour la diversité dans la littérature, qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors, c'est bien de les avoir, mais c'est aussi important d'avoir des livres ancrés dans notre propre territoire.
Oui, je suis tombée sur un livre pour enfants récemment qui s'appelle Le gâteau de lune de Grace Lynn.
Oh, c'est pas très loin.
C'est pas très loin. C'est ton autre nom d'artiste.
C'est ton pseudo.
Tu as écrit un deuxième livre. En fait, c'est l'histoire d'un gâteau de lune géant qu'une petite fille va dévorer pendant la nuit. Donc, je trouve que les dessins représentent bien la sensation qu'on a quand on mange un gâteau de lune. Donc, je pense que c'est un livre qu'on aime bien relire plusieurs fois. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ah, génial. Ben, le gâteau de lune, ça s'appelle.
Le gâteau de lune de Grace Lynn.
Merci beaucoup. Et aussi, parfois, c'est une solution. Moi, je crée des livres personnalisés en ligne. Vous savez, on peut mettre avec le prénom de l'enfant, etc. Et on peut aussi changer son apparence physique. Et du coup... J'ai fait le premier livre qui ressemblait en fait à un asiatique, c'était parce que je l'avais personnalisé. Donc vous pouvez aussi faire ça, mais il n'y aura pas les références par contre asiatiques. Donc voilà, c'est juste un plus si jamais vous avez envie d'une idée de cadeau.
Moi j'avais fait un truc comme ça pour ma fille, c'était un Où est Charlie,
ah, oui,
pour ma fille. Ah, c'était trop bien, elle était trop contente.
Elle se cherchait
partout. C'était son meilleur cadeau.
Merci à toutes les deux, merci,
merci beaucoup.
Beaucoup
Mélanie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Grace et Mélodie pour cet échange et j'espère qu'il vous aura donné envie de vous procurer le livre, envie d'inciter votre bibliothèque de quartier à l'acheter aussi et à en acheter beaucoup d'autres, ceux que l'on cite, et de manière générale, plein de livres qui représentent des personnages différents.